Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Shalom Bourgogne dans Histoire d'Outre-Manche et son 10e numéro. Mais oui, déjà 10. Élie à la technique et à l'animation. Bonjour Élie.
Bonjour Fred.
Je tiens à te remercier Élie pour ton aide précieuse depuis le premier numéro. Tu fais preuve d'un grand professionnalisme, toujours.
Ben merci à toi et c'est un grand plaisir de t'entendre nous conter la Grande-Bretagne. Je suis à chaque fois très attentif.
Et puis, bien sûr, votre producteur et animateur fidèle au rendez-vous, c'est-à-dire moi-même, Frédéric. Le tout premier numéro d'Histoire d'Outre-Manche était consacré au Pays de Galles et à mon expérience d'assistant de langue française à Swansea en 1990-1991. 9 éditions et quelques semaines plus tard, je reviens en partie au Pays de Galles. J'ai choisi de vous parler des chœurs de voix masculines britanniques, dans un premier temps, et pour assurer l'égalité homme-femme, j'évoquerai les chœurs de voix féminines dans un second temps. Alors pourquoi ai-je choisi ce sujet? Tout simplement, j'ai eu la chance de connaître un de ces chœurs au Pays de Galles, The Morriston Orpheus Choir. J'ai assisté à des concerts dans des églises. Je me suis laissé emporter par la beauté des voix et de la musique. J'ai trouvé cela tellement magnifique que j'avais envie de traiter du sujet. Nous allons explorer comment, quand et pourquoi les chœurs de voix masculines se sont développés et comment la voix des femmes a finalement trouvé sa place dans ce paysage dominé par les hommes. Des voûtes sacrées des cathédrales aux vallées minières du Pays de Galles, voici un voyage d'une heure au cœur du chant collectif britannique et un nouveau moment de culture en partage avec vous. Alors, êtes-vous prêt pour le voyage? Ouvrez bien vos oreilles et laissez-vous emporter. Tradition musicale parmi les plus riches au monde, les chœurs de voix masculines britanniques ont vécu et prospéré à travers les siècles. Ces ensembles ont incarné le génie choral d'Albion. La Grande-Bretagne possède une longue tradition chorale remontant au Moyen Âge, essentiellement liée aux cathédrales et aux collegiate chapels. L'origine de cette tradition des chœurs de voix masculines est profondément liée à l'Église. Il est nécessaire alors d'assurer une liturgie chantée quotidienne, complexe et polyphonique. Cela a conduit à la création des maîtrises de cathédrales et des chapelles royales, comme celles du roi ou des collèges d'Oxford et Cambridge. Le mot maîtrise, en anglais choir school ou cathedral choir, désigne une institution chorale et éducative traditionnelle où sont formés de jeunes chanteurs, souvent des garçons, pour assurer le service musical des offices religieux. C'est là que le modèle s'est fixé. Les hommes chantent les parties de ténor et de basse, tandis que les aigus, soprano et alto, sont confiés aux garçons, les fameux choristers. Nigel, que j'ai connu à Swansea et qui chantait dans le Morriston Orpheus Choir, m'avait confié être très attaché à la religion. Ouvrier de métier, il intervenait dans des camps de scouts sur son temps libre. Il me racontait qu'il avait été enfant de chœur autrefois. Fils de mineur, il chantait lors des offices et c'est ce qui lui a donné envie d'intégrer une chorale. Côté historique, la réforme anglicane au XVIe siècle n'a pas brisé cette tradition. Au contraire, elle l'a même nationalisée, donnant naissance à des compositeurs immenses qui ont écrit leur musique pour ces voix d'hommes et d'enfants. L'un des sommets de cette polyphonie est sans conteste l'œuvre de William Byrd. Nous allons l'écouter interprété par The Sixteen. Fondé en 1979 par Harry Christophers, chef britannique passionné de musique ancienne, cet ensemble vocal de Sixteen est basé à Londres. Le groupe est devenu en quelques décennies une référence internationale pour la musique de la Renaissance, du baroque et même du début du classique. Il est constitué d'environ 16 chanteurs. professionnelle, souvent accompagnée par un orchestre sur instruments anciens, que l'on appelle « The Orchestra of the 16th ». Leur répertoire repose essentiellement sur la polyphonie anglaise de la Renaissance, Tallis, Bird, Gibbons, Shepherd, mais aussi Purcell et bien d'autres encore. Quand on écoute un tel concert, surtout dans un édifice religieux, notre cœur est rempli d'émotions. La musique nous envahit et nous transporte ailleurs. C'est en tout cas ce que je ressens. Alors, partageons à présent cet Ave Verum Corpus de William Byrd. Écoutez bien, on se croirait dans une cathédrale. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Les chœurs d'hommes et d'enfants ont continué de prospérer durant l'ère baroque de 1600 à 1750. Le XVIIe siècle nous offre un autre géant de la musique. Il est de loin mon musicien préféré avec William Byrd. J'ai nommé Henry Purcell, lui-même ancien enfant de chœur. Purcell a exploité la pureté et l'éclat des voix de garçons dans un répertoire sacré toujours dominé par les ensembles masculins. Purcell, j'ai vu son tombeau qui siège en bonne place à l'abbaye de Westminster. Je l'ai découvert sur les bancs de la fac d'anglais à Dijon, d'abord avec « If music be the food of love » et puis « The Sparrow and the Gentle Dove » que j'affectionne tout particulièrement. Purcell, je l'ai redécouvert autrement, avec vous, lorsque je vous ai présenté son célèbre opéra « Didon et Énée ». Écoutons ici un de ses chefs-d'œuvre, et il n'en manque pas. Un hymne d'une simplicité et d'une ferveur qui reste saisissante. Voici « Hear my prayer, O Lord ». Au XVIIIe siècle, la musique chorale britannique reste principalement religieuse. Les cathédrales maintiennent une pratique quotidienne du chanted service, chanté matin et soir. Des compositeurs comme Maurice Greene, William Boyce et Samuel Wesley continuent la tradition du anthem et du service. Mais l'usage du chœur masculin dépasse peu à peu la sphère liturgique. À partir du milieu du XVIIIe siècle, la bourgeoisie et les élites cultivées développent une nouvelle forme de chant choral masculin, les glee clubs. Le mot glee désigne alors une courte pièce polyphonique, légère, profane et harmonieuse, chantée a cappella par des hommes. Le Catch Club, fondé à Londres en 1761, devient le centre de cette mode. Le Catch Club était une société musicale exclusivement masculine, dédié au chant polyphonique convivial. Ses membres se réunissaient pour interpréter des glees, catches et madrigaux, souvent humoristiques ou bachiques, c'est-à-dire qui avaient rapport à Bacchus. On y célébrait le vin et l'ivresse en chantant ou parfois en essayant de chanter. L'église était des compositions vocales interprétées par trois voix masculines et qui avaient pour thématique l'allégresse. Les catchies étaient des canons perpétuels, alors canons, rien à voir avec l'ivresse, joke, des canons pour trois voix masculines également. Le club récompensait les meilleurs compositeurs par des concours annuels. Il joua un rôle majeur dans la popularisation du chant choral profane en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Ces clubs se réunissaient dans des tavernes ou salons privés. Vous l'aurez compris, c'est un univers masculin, convivial, souvent arrosé de bière et d'esprit. Les compositeurs les plus réputés sont John Wall Colcott, Samuel Webby ou Benjamin Cook. Les Glee Clubs jouent un rôle fondamental dans la diffusion du goût choral en dehors des institutions religieuses, préparant le terrain pour les grands chœurs du XIXe siècle. Voici deux interprétations musicales de ces chœurs du XVIIIe siècle. D'abord, Samuel Webby, Benedicimus Deum Coeli, interprété par The University Baptist Church Choir Scholars, une université qui se situe à Austin, dans le Texas. Il s'agit d'un motet sacré de la fin du XVIIIe siècle, typique du style classique anglais catholique. Écrit pour chœur a cappella, il allie clarté homophonique et élégance mélodique, privilégiant la compréhension du texte liturgique latin. L'harmonie est sobre mais expressive. Elle soutient un élan de gratitude et de lumière, en cohérence avec le sens du texte. Nous bénissons le Dieu du ciel. La pièce se distingue par sa noblesse équilibrée entre ferveur religieuse et raffinement musical.
Thank you.
La deuxième interprétation musicale, c'est le « Hark, Hark, the Lark » de Thomas Wilkes. C'est une pièce vocale de la période élisabéthaine. Elle illustre le style madrigal anglais, mêlant polyphonie délicate et text painting, où les mélodies imitent les sons évoqués par le texte. Ici, par exemple, vous entendrez le chant de l'alouette et l'éveil du matin. L'harmonie est subtile et expressive, jouant de dissonances passagères pour souligner les images poétiques. La pièce se caractérise par une grande fluidité rythmique et un équilibre entre voix, créant une atmosphère légère et enjouée. Et nous voici au XIXe siècle, qui marquera l'âge d'or du chant choral et une véritable démocratisation de la pratique. Les cathédrales et chapelles royales poursuivent la pratique des chœurs masculins, chez les adultes et chez les enfants. Leur prestige s'accroît à l'époque victorienne. La rigueur morale et le goût du cérémonial s'accordent avec la pureté de ces ensembles. Les compositeurs tels que Samuel Sebastian Wesley renouvelle le répertoire liturgique et impose une discipline chorale plus stricte. Mais le XIXe siècle marque une grande révolution, et pas seulement industrielle. La démocratisation du chant choral se manifeste ainsi. Des choral societies apparaissent dans les villes industrielles, Manchester, Birmingham, Sheffield, Leeds, et elles rassemblent des centaines de chanteurs, souvent hommes dans les basses et ténors. La fierté civique de chanter est incarnée par des sociétés ouvrières ou bourgeoises et de vastes oratorios, Handel, Mendelssohn, Haydn, sont proposés dans des festivals devenus emblématiques, le Birmingham Triennial Festival, Leeds Festival. L'oratorio, pour votre culture, est un drame lyrique sur un sujet en général religieux. Le XIXe siècle, en Grande-Bretagne, c'est surtout la voix du monde ouvrier qui s'installe. La révolution industrielle est à son zénith. Elle impose des conditions de travail très difficiles pour les hommes, mais aussi les enfants. Ah, nous sommes loin, bien loin des 35 heures à la française et des semaines de congés payés. Loin aussi de la scolarisation obligatoire. Il faut produire pour enrichir le pays. L'invention de l'électricité et de la vapeur accentue le phénomène. L'Empire britannique doit briller, il doit prospérer. Pour sortir de leurs conditions de vie difficiles, des ensembles de voix masculines, composés de travailleurs, se rassemblent pour chanter après le labeur, mêlant répertoire sacré, hymnes patriotiques et chansons locales. C'est vrai un peu partout en terre britannique. Ces chorales, souvent improvisées au départ, naissent et prospèrent dans les Midlands, le nord industriel, bon, c'est vrai dans les mines, dans les usines, ou pour les constructions de chemins de fer, mais aussi au pays de Galles. L'exemple le plus emblématique est justement celui des Welsh Male Voice Choirs, nés dans les communautés minières. Leur répertoire comprend des hymnes gallois, Cwm Rhondda, Guide Me, des arrangements de musique classique sur Handel, Mendelssohn, et des chants patriotiques britanniques, Rule Britannia ou Land of Hope and Glory. Leur style est ample, chaleureux, harmonieux, très différent du ton pur des chœurs de cathédrale. Malgré le travail physique, la souffrance du monde ouvrier, dont l'espoir d'un monde meilleur est douché par la dureté, les exigences et l'intransigeance des patrons, malgré tout cela, un fort sentiment d'appartenance à la patrie s'exprime. Je vous propose justement d'écouter « Land of Hope and Glory » by Sir Edward Elgar dans une interprétation de la Royal Choir Society.
Thank you.
Ah, je trouve cela grandiose, la fierté d'appartenir à un peuple. Ce que j'aime beaucoup moins, c'est le repli sur soi. On peut être fier de notre pays, de notre patrie, tout en ouvrant notre cœur vers l'autre, vers des cultures différentes. L'un n'empêche pas l'autre, ou alors on est condamné à boiter, à ne marcher que sur une seule jambe. En tout cas, c'est mon avis. Mais pour en venir à nos moutons, il faut bien comprendre que les chœurs masculins britanniques ne sont pas qu'un phénomène musical. Ils touchent aux religieux, c'est-à-dire qu'ils perpétuent la tradition anglicane du chant sacré. Ils touchent au social, à savoir qu'ils unissent les hommes d'un même corps de métier ou d'une même ville. Ils touchent au national, ils incarnent une certaine idée de l'identité britannique, avec la discipline, la solidarité et la moralité qui vont avec. Et enfin, ils touchent à l'éducatif. Ils offrent aux classes populaires une formation musicale gratuite et valorisante. Le mouvement choral a ainsi été un vecteur de cohésion sociale dans la société victorienne, au même titre que le sport ou les associations philanthropiques. Les chœurs masculins issus de cette tradition perdurent aujourd'hui. Les Cathedral Choirs à St. Paul's, Westminster Abbey, King's College conservent la pureté de leur ligne vocale. Les Welsh Male Voice Choirs, comme le Morriston Orpheus Choir, continuent d'être une fierté nationale. Le modèle a inspiré les chœurs masculins d'universités, de régiments et même des ensembles contemporains comme le King's Singers, héritier moderne du Glee Club. Écoutons plutôt comment The King's Singers perpétue justement le Glee Style. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves soul to lead. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say
that never lands to strong. Just remember in the winter, far beneath the bitter snows, lies the sea that with the sun's love in the spring.
Que dire après cette jolie interprétation de The Rose a cappella? Eh bien, je vous emmène dans un voyage au cœur du chant gallois où les voix d'hommes soufflent et vibrent comme un seul cœur battant. The Morriston Orpheus Choir, je l'ai connu. Il a enchanté plusieurs de mes soirées galloises, tant par la beauté des concerts qu'il a donnés que par la richesse des rencontres humaines qu'il a suscitées. Un soir, j'ai assisté à leur troisième mi-temps. Oui, il faut employer le bon vocabulaire, hein, nous sommes tout de même en terre de rugby. J'ai eu le plaisir de parler en anglais avec des Russes, des Canadiens et des Allemands. Nous avons savouré le même spectacle musical et avons eu la joie de nous rencontrer ensuite. Oh, j'étais un privilégié sur ce coup-là, je le sais, il faut bien l'admettre. The Morriston Orpheus Choir naît en 1935 à Morriston, dans la banlieue ouvrière de Swansea. Le pays chante toujours, même au fond des mines. Et c'est là, un 23 avril, qu'un jeune chef, Ivor E. Sims, réunit des ouvriers, des enseignants, des commerçants pour chanter ensemble. Très vite, le chœur remporte concours et distinctions, notamment au prestigieux Eisteddfod, ce grand festival gallois où la poésie et la musique se célèbrent depuis le Moyen-Âge. Puis la guerre vient interrompre cette ferveur collective, mais à la paix retrouvée, les voix se relèvent plus fortes que jamais. Sous la direction de Tudor Davis, puis d'Alwyn Humphreys, The Morriston Orpheus Choir devient un modèle de rigueur, d'émotion et de fraternité. Sa réputation dépasse les frontières. Il chante à Londres, à Rome, à Sydney et même au Vatican devant le pape. Le pays de Galles entier peut être fier. Ses voix d'hommes portent dans le monde la chaleur d'une nation. Le chœur ne cesse de se réinventer. Des hymnes gallois, il passe à la musique d'opéra, aux negro spirituals, aux chansons populaires et contemporaines. Aujourd'hui, dirigé par Joy Aman Davis, The Morriston Orpheus Choir compte plus de 80 chanteurs bénévoles. Il les répète chaque semaine, chante une vingtaine de concerts par an et poursuivent une mission, porter le chant gallois à travers le monde dans un message d'amitié, de foi et de fraternité. Ah, ils ont été si formidables avec moi que je leur dois bien un bel hommage. Aussi, je vous propose d'écouter I am sending you an angel, un phoneuf angel in Welsh, une prière moderne écrite par Robert Arwin, bouleversante par sa simplicité. The Morriston Orpheus Choir y mêle douceur et ferveur. C'est un hymne à la paix.
Oh, no.
Imaginez un instant ce que vous venez d'écouter jouer dans une cathédrale. Je vous promets que vous avez des frissons, des pieds à la tête, le cœur ravi et des larmes d'émotion au bord des yeux. Et nous poursuivons l'hommage au Morrison Orpheus Choir par un Negro Spiritual. Amazing Grace. Quelle belle transition pour évoquer les chœurs de voix féminines britanniques. Contrairement aux chœurs masculins, dont la tradition remonte aux cathédrales et aux guildes ouvrières, les chœurs de femmes se sont développés surtout à partir du XIXe siècle, à mesure que l'éducation musicale féminine s'élargissait et que les écoles de filles et collèges donnaient accès au chant choral. Les premières institutions marquantes sont les Ladies Choirs des grandes villes, Londres, Manchester, Birmingham. Ces ensembles profanes et religieux interprètent des hymnes, des motets, des arrangements folkloriques et morceaux classiques, avec une attention particulière à la clarté des voix et à l'équilibre des tessitures soprano et alto. Les écoles de musique féminine comme Guildford High School Choir ou Newham College Choir à Cambridge deviennent des foyers de créativité. Elles transmettent la rigueur du chant polyphonique tout en laissant la place à la fraîcheur et à l'émotion. Au XXe siècle, les ensembles féminins britanniques gagnent en visibilité internationale par des concerts à l'étranger, des enregistrements pour la BBC ou une participation à des festivals prestigieux. Les chœurs de voix féminines britanniques ne se limitent pas à la musique sacrée. Ils interprètent également des arrangements de folk songs, des mélodies contemporaines. Cette polyvalence illustre la richesse de la tradition britannique. Discipline, créativité et émotion se mêlent pour toucher un public plus large. Aujourd'hui, ces chœurs continuent d'évoluer, mêlant anciennes traditions polyphoniques et œuvres modernes, et elles offrent un répertoire varié, des motets de Byrd et Tallis aux compositions contemporaines pour voix féminine seule. En résumé, les chœurs féminins britanniques sont la preuve que le chant choral n'a pas de limite de genre. de la cathédrale aux scènes internationales, de la musique sacrée aux arrangements modernes, leur voix légère et puissante continue de captiver et d'émouvoir. Pour illustrer le talent des femmes dans les chœurs de voix féminines britanniques, je vous propose d'écouter l'Ave Verum Corpus, cette fois-ci de Mozart, par The All Saints Girls Scholar. Et pour finir, The Morrison Orpheus Choir, et particulièrement Valerie et Nigel, ont marqué mon existence de jeune homme. They raised me up.
Then I am saved.
Le 10e numéro d'Histoire d'Outre-Manche, consacré aux chœurs de voix masculines et féminines britanniques, touche à sa fin. Je vous remercie de votre fidélité. Mille fois merci. Au prochain numéro, il sera question de la reine Victoria, de son histoire et de son règne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Radio Shalom Bourgogne.